Il y a une référence qu'à la slide suivante. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent du point de vue de cet objet. Un, qu'est-ce que l'objet NDP? Deux, qu'est-ce qu'une hétérogénéité non standard? Trois, quels outils conceptuels utiliser? Questions qui m'ont été proposées dans les discussions que j'ai eues avec Julie et Darwin. Voilà, la suivante. Alors, l'objet NDP. Si Notre-Dame de Paris est un objet, il n'est pas construit uniquement par la convergence des perspectives disciplinaires. La convergence des perspectives disciplinaires, c'est comme ça que l'on conçoit les objets complexes. Tandis que je pense qu'il est plus riche de le traiter en objet intégratif, c'est-à-dire non synthétisable. Parce que c'est un objet qui acte du rapport à l'objet, hein, la façon dont l'historien, l'archiviste, le conservateur reprend à la fois ses écrits et ses bâtis, ce matériau, et d'autre part, c'est un objet qui engage une pluralité de dynamiques qui ne sont peut-être pas synthétisables, qui ne sont pas sur le même plan. Bon, passons à la suivante. Alors, c'est une situation qui est fréquente maintenant dans les sciences contemporaines. Beaucoup de champs de recherche sont développés dans des disciplines hétérogènes sans que l'on puisse en faire une synthèse de type disciplinaire. Par exemple, sur la question de l'obésité, qui est un problème très important puisqu'il touche un quart de la planète, il y a des travaux dans toutes sortes de disciplines et l'on sait, on voit qu'on n'arrive pas à les synthétiser. Donc, il faut un autre point de vue épistémologique. Que le point de vue épistémologique classique qui articule théorie et expérience comme deux complémentaires. Il faut voir un petit peu différemment. Pour la dépression, c'est la même chose. Il faut voir les batailles qu'il a autour, les comportementalistes qui pensent que les psychanalystes sont des charlatans, etc. Le fait qu'on n'arrive pas à, ou difficilement à créer un commun égale X qui permettent de traiter de la dépression. Pour le climat, c'est la même chose. Le climat n'est plus la fille du bureau des longitudes. C'est devenu une matière tout à fait interdisciplinaire avec des modélisations extrêmement différentes et hétérogènes. Voilà, la suite. Et cela, ça se trouve même à l'intérieur des disciplines. Je vous ai dit, je suis une philosophe in the field. J'ai été au CERN, pas simplement dans les trous d'expérimentation. Alors, la chose très étonnante, c'est que les expérimentateurs m'ont déclaré qu'ils ne comprennent pas les articles des théoriciens. Ça, c'est. Voilà, on ne les comprend pas. Ils s'appuient sur l'analyse des abstracts, simplement. Donc, il faut très, très bien faire les abstracts quand on fait un article, c'est très important. Et à partir de ces abstracts, ils cherchent ce qu'ils appellent les bonnes variables. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils demandent aux théoriciens de revenir pour leur dire s'ils sont compatibles avec les théories qu'ils ont élaborées. Ce n'est donc plus une question d'unité, mais de compatibilité. On verra, ce terme reviendra. La suite. En biologie aussi, la biologie est une gamme de disciplines. Et il y a même plusieurs génétiques avec des méthodes et des problèmes différents. Des généticiens qui ne se parlent pas. Hein, ça, j'ai pu le voir en travaillant sur le centre de Jouy-en-Josas. Il n'y a pas de théorie générale dont on puisse déduire toutes les sous-disciplines de la biologie. Et la biologie synthétique, elle est faite de flux entre modélisation mathématique, informatique théorique et informatique d'ingénierie. Fragments de théorie des matériaux, fragments de biologie, construction en module automatique, etc. Donc, vous voyez, il y a l'unité n'est plus tellement le problème. La suite. Donc, l'unité de la science a été beaucoup rêvée à partir de la mécanique et de la physique, mais si nous prenons la biologie pour modèle, l'unité ne paraît plus si évidente, même en physique. La compatibilité est l'hypercompatibilité. Je dis hypercompatibilité au niveau des modèles parce que si, comme pour le climat, vous avez des centaines de modèles différents, ils reposent sur des hypothèses qui parfois sont contradictoires. Mais on n'a pas de critères pour supprimer un modèle plutôt que l'autre. Donc, il faut supposer une hypercompatibilité qui devient fondamentale. On la retrouve de façon extrêmement positive et importante, à la fois dans l'œuvre de Poincaré et précédemment de Leibniz. Alors, traité de l'hétérogénéité non standard. Dans les sciences classiques, par exemple la physique, l'hétérogénéité est traitée par les mathématiques. On suppose que les mathématiques permettent d'homogénéiser le réel. Alors, ce n'est possible en sciences humaines et sociales que partiellement. Et le rôle des mathématiques change. La suite? J'appelle hétérogénéité non standard une hétérogénéité qui ne peut être réduite par une discipline isolée. Toutes les disciplines appliquées dans un problème de ce type ont le même poids. Sinon, nous arrivons à une impasse. Ça, c'est très, très important. Très important. Ça se voit d'ailleurs dans certains articles, je crois, de Morcel et peut-être de Lamassé aussi, où l'on voit que l'histoire, l'informatique, toutes les disciplines utilisées ne peuvent pas être traitées simplement comme des outils, mais véritablement comme des disciplines qui ont le même poids. La suite. La suite. Le non-standard conduit à une conjugaison des disciplines. C'est le cœur des sciences contemporaines. En tant que représentants de disciplines hétérogènes, nous avons à chercher un commun égal X. Je dis égal X parce qu'un commun tout seul, ça peut donner lieu un peu à n'importe quoi, par exemple le commun des suprématistes blancs, le commun des fascistes, le commun des... etc. Dans la recherche, il faut que ce commun suppose non seulement une incertitude, mais aussi une part d'inconnu qui nous garantit que ça n'est pas n'importe quel commun. La suite. Alors, quels outils utiliser, conceptuels utilisés? Voilà, la suite. Ce sont donc des propositions que je fais. C'est pas du tout des. Il faut pas prendre ça du tout comme un dogme, mais comme une proposition. Pour construire un commun égal X entre toutes nos postures et nos disciplines, on peut chercher les notions les plus élémentaires en usage dans toutes les disciplines appliquées. Par exemple, dans toutes, il pourrait y avoir l'idée d'intention, l'idée de matérialité, d'objet et de rapport à l'objet, de production de l'objet, une certaine vision, par exemple, de la ou des temporalités, etc., etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place peu à peu pour, comment dire, qui permettent de rassembler quelque chose de l'hétérogénéité. Nous avons, Muriel et moi, cherché les primitives des travaux scientifiques. C'est-à-dire les notions tout à fait élémentaires qui sont rassemblées ensemble dans tout travail scientifique. Là, on pourrait le faire pour les sciences sociales et pour l'histoire, pour l'ensemble de notre travail. Ça permet de passer plus facilement la suite. Lorsqu'on a une conjugaison de disciplines qui travaillent ensemble, comment est-ce qu'on assure la cohérence? Les cohérences, elles sont disciplinaires, habituellement. Comment est-ce qu'on fait? Alors, en général, ce qu'on peut faire, c'est qu'on assure la cohérence par une autre discipline qui intervient de façon neutre, sans effet positif. Par exemple, ça peut être l'épistémologie, ça peut être l'éthique, mais ça pourrait être une autre qui participe au projet, l'informatique, l'intelligence artificielle, pourquoi pas la paléophilologie, etc. Qu'on pourrait utiliser simplement comme garantie de cohérence. La suite. Il est possible, ce n'est pas nécessaire, mais ça dépend de l'état du travail. On peut éventuellement constituer un glossaire qui manifeste les variations d'usage et d'interprétation de quelques mots fondamentaux. Ça, ceci dans le travail, on en sent la nécessité. Je l'ai fait dans un cours sur le commun égal X, donné cette année. Non given common equal X. Et les participants ont participé à la fondation d'un glossaire. C'est une proposition, c'est pas tout une obligation. La suite. Voilà. Alors, critère est un mode de rigueur qui peut être valable dans les sciences interdisciplinaires. La rigueur, elle est disciplinaire. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une rigueur lorsqu'on est en régime interdisciplinaire? Alors, Poincaré a proposé une solution. C'est Poincaré, d'ailleurs, je pense, le premier scientifique à avoir véritablement ouvert un espace générique. Ah, Alors, lui propose d'abord de décomposer une discipline. Quand nous avons par exemple notre construction de l'espace sensible, il faut le décomposer pour en avoir une partie qui soit compatible avec la géométrie ordinaire, par exemple. Ou bien alors, ce qu'il a fait, ce qui a été très important. Il s'est dit, la mécanique en général s'écrit en langage analytique, mais je allège parce que les disciplines sont. Elle a été tout de suite reprise, où il y avait une pratique de l'interdisciplinarité extraordinaire. Et c'est revenu en France dans les années 80 pour la robotique. On avait besoin d'une mécanique algébrique pour la robotique. Mais c'est 80 ans plus tard, après la proposition de Poincaré.
Simplement, Anne-Françoise,
Alors, le second.
est-ce que je peux me permettre de vous interrompre juste 2 secondes?
Oui,
En fait,
bien sûr.
il y a pas mal d'interruptions dans le son. Donc peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est couper nos vidéos, tous ceux qui peuvent le faire, y compris vous, pour essayer
Oui.
d'éclairer. Moi, je vais essayer de le faire pour moi aussi. Vous
C'est un
arrêtez.
peu dommage. C'est un peu dommage, mais ma foi, c'est comme ça.
Non, mais juste le.
Ouais, d'accord.
Voilà.
D'accord, voilà. Et puis d'autre part, de s'assurer de la compatibilité des démarches fondamentales entre elles. Par exemple, Maxwell, quand il a fait sa théorie électrique magnétique, à une époque où il y avait toutes sortes de théories d'électricité, il passait ses loisirs à construire des modèles mécaniques de l'électricité pour s'assurer de la scientificité de ce qu'il faisait. Hein? C'est une question de compatibilité. Il savait que la mécanique était un modèle où on pouvait à la fois calculer et prédire. Donc, pour s'assurer que ce qu'il faisait était scientifique, il cherchait des modèles mécaniques de son travail. Donc là aussi, la compatibilité plutôt que l'unité. Voilà, la suite. Alors, comment dépasser les limites disciplinaires? Eh bien, on peut postuler un processus générique dans les relations itératives entre disciplines. J'itérative en ce sens, quelqu'un peut parler de la conservation des manuscrits. Et puis quelqu'un d'autre, par exemple, qui est historien et qui ne s'occupe pas de ça, écoute la personne et puis construit en même temps le savoir qu'il a et le savoir qu'il n'a pas. Quand vous parlez de choses que je ne connais pas. Mais je m'exerce à, comment dire, modifier un petit peu ce que je fais, à réécrire mon travail en fonction de chaque itération disciplinaire. Alors, ça nous donne une conjugaison des disciplines dans un espace générique. Les disciplines elles-mêmes n'ont que des relations indirectes. On ne passe pas comme ça d'une discipline à l'autre, sauf pour des petits projets. Mais ça s'arrête très vite. Si on veut faire un travail interdisciplinaire qui convienne, il ne suffit pas de passer d'une discipline à l'autre. Il faut construire un espace générique qui nous permette de combiner des concepts de disciplines différentes. Et alors l'orchestration, pas seulement la conjugaison, mais l'orchestration des disciplines, c'est l'affaire de l'éthique. Voilà le suivant. L'éthique, elle s'assure que toutes les disciplines ont le même poids avec itération. Écraser une discipline par une autre a un effet idéologique. Ça, c'est très important. On a des effets idéologiques qu'on ne maîtrise pas si on méprise une discipline qui fait partie du projet. La suite. Alors, la collectivité de chaque discipline a des effets dans la collectivité de chaque autre. Ici, je parle de la production d'un concept qui s'appelle intime collectif, qui a été produit par les ethnopsychiatres de la troisième génération. C'est un mode de soins qu'ils ont fait pour des gens qui venaient avec une identité d'un pays autre et qui avaient de la peine à s'adapter en France, si ce n'est par des larcins et des vols. Et l'intime collectif est créé par le fait qu'on rassemble ensemble, hors du cabinet, les juristes, les personnes sociales, les médiateurs, les traducteurs, la famille, la personne fautive, etc., etc. Et on se passe la parole jusqu'à ce que tout le monde se sente pris dans l'affaire et donne finalement, par leur propre transformation, une identité à la personne qui est l'enjeu de cet intime collectif. C'est un très beau concept qui a été réutilisé ensuite dans toutes sortes de domaines. Je l'ai vu en art, je l'ai vu utilisé à Quito pour repenser les promenades autour de l'eau, etc. Il y a toutes sortes d'interprétations possibles de l'intime collectif. Voilà la suite. Ça y est. Voilà des propositions.